Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louanges. Merci de nous avoir entraînés dans la présence de Dieu et d'avoir préparé ces chants pour nous. C'est super d'avoir une équipe de louanges, n'est-ce pas? Et même plusieurs, hein. C'est vraiment une joie. Je m'appelle Éric Célérier, je suis le pasteur Éric Célérier. Peut-être que certains me connaissent à travers du Top Chrétien. Oui? Il y en a qui connaissent Top Chrétien? Ok, il y en a qui utilisent Internet. Si vous utilisez Internet, je vous encourage d'utiliser Top Chrétien. Pourquoi? Ben parce que vous allez être bénis tous les jours avec la pensée du jour, avec toutes sortes de services qui sont là pour et de formations qui sont très bien. Le pasteur Yvan m'a demandé d'apporter la parole, donc je prêche ce matin pour les deux cultes et j'ai fait deux cultes aussi dimanche dernier. En fait, on s'est réparti un petit peu la charge. Pour ces deux dimanches. Et c'est une grande joie d'apporter la parole de Dieu. C'est une grande joie avec mon épouse, mes enfants. Nous avons rejoint l'église de Créteil depuis le mois de juin. Je suis souvent en déplacement. Et puis, comme il y a quatre cultes, donc on n'a pas toujours l'occasion de se voir selon le culte auquel on vient. Mais je sais que vous êtes les plus courageux parce que vous venez au premier culte. Et je trouve, habituellement, je ne viens pas au premier culte. Je trouve qu'il faut du courage quand même, il faut se lever tôt, tout ça. Donc, je voulais vous féliciter. Allez, tournez-vous vers quelqu'un, dis-lui, je te félicite quand même, t'es courageux. T'es... tu t'es levé tôt pour venir dans la maison de Dieu, c'est super. Voilà. Voilà, on est dans une bonne église. Quelqu'un dit amen ? C'est nous l'Église, donc si vous trouvez que l'Église n'est pas bien, il faut vous regarder. Hein. Mais si vous trouvez que c'est bien, ben c'est parce que vous contribuez à faire que l'Église, c'est une bonne Église. C'est quoi une bonne Église? C'est une Église dans laquelle on honore Jésus, on élève Dieu, on respecte la parole de Dieu, on aime ses frères et sœurs, on aime la communion fraternelle. Voilà, c'est l'Église, c'est son Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et nous, on est heureux d'être son Église. Amen. Voilà, gloire à Dieu. C'est une église dans laquelle que j'aime parce qu'il y a il y a plusieurs équipes d'ailleurs, mais disons il y a une bonne équipe pastorale. Alors vous savez, il y a Yvan et Nathalie Carluère, bien sûr, Yvan c'est le pasteur principal, puis il y a toute une équipe pastorale là, qui est là, comme Amandine et David Falaise, Christiane et Christophe et Namé, même Eric et Rachel Dufour qui vivent aux États-Unis une partie de l'année, mais qui reviennent plusieurs mois par an ici. Et puis il y a David et Phyllis Porter, William et Christy Campbell, Jean-Émile et Eliane, Emmanuel et Fabienne Falaise. Et on a même une église qui est rattachée à Créteil, qui est l'église de Joigny, avec Jean et Delphine Le Pennec. Donc ça fait une bonne équipe. Et autour de cette équipe-là, il y a encore d'autres équipes, un conseil d'administration, des équipes d'accueil, de louanges, de repas qui nous font des bons repas tous les dimanches. Enfin bref. C'est quand même super. Est-ce qu'on peut remercier Jésus pour son Église ici? Gloire à Dieu. On acclame Jésus. Amen. Et oui, c'est important. Et quand vous voyez quelqu'un qui fait un service dans l'Église, allez l'encourager, allez lui dire merci. Dites-lui c'est bien. Merci pour ce que tu fais. Merci d'avoir joué de la batterie. Merci d'avoir fait le repas. Merci d'avoir passé le balai. Merci pour ce que tu fais parce que l'Église, elle avance avec tous les gens qui servent le Seigneur. Amen. Donc, n'hésitez pas d'aller encourager quelqu'un. Je vais vous dire, on trouvera toujours des choses qui ne vont pas, mais on peut aussi essayer de trouver toutes les choses qui vont et dire merci pour ça. Vous êtes d'accord? Bon, merci. Je vais vous apporter un message. Alors, on va mettre le PowerPoint. Le titre du message est un petit peu spécial. Vous savez que moi, je ne suis pas un pasteur très classique. Même si je suis pasteur et je sers le Seigneur depuis 25 ans déjà, et on ne dirait pas parce que j'ai toujours l'air d'avoir 25 ans, mais, mais voilà, c'était il y a longtemps. En fait, Dieu a mis dans mon cœur un rêve d'utiliser les technologies, l'informatique, l'Internet, les téléphones portables pour annoncer la parole de Dieu et toucher des gens dans le monde entier. Et c'est super. Alors c'est pour ça que le titre de mon message est un petit peu spécial. Ce n'est pas un titre ordinaire, et le titre c'est « Jésus, mon SMS ». Combien d'entre vous, vous avez un téléphone portable? Faites-moi un signe. Ok. Tout le monde, non? À peu près? Il y en a qui n'ont pas encore un téléphone portable? Parce que c'est Noël, là, bientôt. Donc, c'est peut-être ça, vous allez vous faire un cadeau. Et combien d'entre vous, vous envoyez des SMS à vos amis ou à votre famille? Même peut-être pour Noël, là, ou pour le Nouvel An? Là, chaque année, on bat des records d'envoi de SMS. Vous savez, des millions, je ne sais pas, des milliards peut-être de SMS sont envoyés pour les vœux. Et peut-être vous faites ça et vous envoyez à tout votre carnet d'adresses et hop, bonne année, tout ça. Donc, on utilise beaucoup les SMS, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et puis, moi, je me disais, ça serait tellement super d'utiliser les SMS pour envoyer des paroles d'encouragement aux gens. Alors, il y a deux, trois ans en arrière, déjà, je pensais à ça. Je me disais, comment on pourrait faire pour envoyer des SMS d'encouragement aux gens? Et je n'arrivais pas à trouver une solution qui soit économiquement possible. Parce que si vous envoyez des SMS de votre téléphone, c'est dans votre forfait, vous voyez. Mais si vous voulez envoyer des milliers de SMS à des milliers de gens tous les jours, oui, oui, oui. Ça ne marche plus dans un seul forfait, quoi. Et chercher une solution, et on s'était renseigné auprès de sociétés qui envoient des SMS, et puis c'était pour envoyer genre 10 000 SMS par jour, ça coûtait 10 000 euros par mois. Et ça, ce n'était pas possible. Et donc, je ne trouvais pas de solution, j'étais ennuyé. Puis je suis allé à un mariage, il y a deux ans en arrière, le mariage d'un de nos équipiers qui s'appelle Marc. Et ce soir-là, dans le mariage, j'étais un petit peu fatigué, un petit peu abattu, un petit peu déprimé, quoi. Ça ne vous arrive pas, vous, d'avoir un petit coup de déprime? Mais moi, oui. Hein? Et alors, j'étais là, j'allais au mariage en traînant un peu les pieds. Et puis, en plus, comme je suis pasteur, vous savez, on nous demande toujours de faire des trucs, quoi, nous, les pasteurs. Est-ce que tu veux bien dire un petit mot avant le mariage? Est-ce que tu veux bien faire la prière? Hein? C'est un peu comme des fois, il faut faire la louange, mais on n'est pas en forme, quoi. On dit, oh. Mais on le fait quand même. Alors j'ai dit ok, et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais leur dire. Et j'ai pensé que quand Jésus a été invité au mariage à Cana, c'est là qu'il a fait son premier miracle. Alors j'aurais dit, bon, vous voyez, ce soir on est dans un mariage, et c'est dans un mariage que Jésus a fait son premier miracle, alors peut-être que Jésus va faire un miracle ce soir, et il va peut-être pas changer l'eau en vin comme il a fait à Cana, mais il va peut-être changer la tristesse en joie. Et je me parlais en même temps moi-même, quoi. Et en fait, ce soir-là, Jésus a fait un miracle dans ce mariage. Je passais de table en table, j'allais dire bonjour, et j'arrive auprès d'un jeune qui était à une table. Il me dit, alors Eric, c'est quoi les projets du Top Chrétien? Alors je lui dis, oh, il y a plein de projets, il y a plein de trucs, on est en train d'ouvrir un bureau au Japon, tout ça. Ah bon, au Japon? Et je dis, oui. Mais j'ai dit, mais il y a quand même un projet qui est sur mon cœur, mais je ne sais pas comment le faire. J'aimerais envoyer des SMS d'encouragement, mais je ne sais vraiment pas, parce que ça coûte vraiment trop cher. Et il me dit, ah bon, et qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, ben, tu sais, un petit verset de la Bible chaque jour aux gens qui en ont besoin. J'aimerais vraiment faire ça, utiliser cette haute technologie pour faire avancer l'évangile, comme on utilise déjà Internet. Ah, il me dit, c'est marrant que tu me dises ça, parce qu'il y a une fille là qui est là dans le mariage ce soir, et elle envoie tous les jours des SMS d'encouragement à ses amis. Et il me dit, il y a aussi un gars, il est aussi dans le mariage, et il fait ça aussi. Alors, il me les montre. Alors, je vois la fille là-bas, je vois le gars là, et je leur fais comme ça. Alors, ils se lèvent, ils arrivent, ils se disent, qu'est-ce qu'il veut le pasteur de nous appeler comme ça? Et je leur dis, racontez-moi ce que vous faites. Et donc, la fille et le gars me disent, ben voilà, tous les jours, on envoie un petit mot à nos amis, un petit SMS. Et je ne sais pas si ça vous aurait fait ça, mais moi, c'est tout d'un coup, j'ai eu le déclic ce soir-là. Et je me suis dit, ben voilà la solution. Si je trouve des gars et des filles comme eux, qui ont un forfait SMS, enfin un forfait dans lequel ils peuvent envoyer des SMS, si au lieu d'être deux, ils étaient 100, et si ces 100, ils envoyaient chacun à 100, ça ferait 10 000. Et ça coûterait combien? Ah, y en a qui comptent vite ici. Il y en a, ils sont doués pour les réductions, ça se voit. Zéro. Alors, j'ai dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut en trouver juste 98 autres, ça va être facile. Hein? Et alors, c'était amusant parce qu'on était assis à table et on textotait d'une table à l'autre, on s'envoyait des petits mots comme ça. Et puis, c'est comme ça qu'est né un service qui s'appelle Passe le mot, dans le mariage. Mais le plus intéressant, c'est qu'un peu plus tard, je recroise la fille en question. Et je lui dis, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de t'impliquer dans ce service-là, d'écrire des SMS et de les envoyer? Et elle me raconte en fait que deux ans avant ce mariage, elle avait eu un rêve une nuit. Dieu lui avait parlé dans le rêve et lui avait dit, un jour, Éric Sellerier va venir te chercher pour envoyer des SMS. Et c'est moi, quoi. C'est moi qui ai préparé ça. Vous savez, quand la Bible dit que Dieu prépare des œuvres d'avance. Et Dieu lui avait dit, mais tu ne dois pas lui dire, tu dois attendre qu'il vienne te chercher. J'aurais préféré qu'elle vienne me le dire. Ça m'aurait simplifié la vie. Mais alors, elle était toute tremblante, imaginez. Et le truc, c'est qu'elle n'est pas bizarre comme fille parce qu'elle l'avait dit à quelqu'un d'autre. Elle avait dit, en fait, à ses amis qu'elle avait fait ce rêve et que c'était vraiment un petit peu spécial, quoi. Et une de ses amies était là dans le mariage ce soir-là. Et elle a dit, oui, c'est vrai, je témoigne. Elle m'avait dit ça il y a 2 ans et on l'avait tous trouvé bizarre. Surtout que je ne la connaissais pas vraiment personnellement, quoi, cette personne. Voilà, je l'avais peut-être croisée, mais c'est tout. Donc c'était spécial. Dieu voulait qu'on utilise les SMS pour encourager des gens. Si Jésus était venu aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il aurait envoyé des SMS à ses disciples? Ah oui, ben c'est sûr que oui. Alors vous allez me dire, comment tu peux être sûr de ça, hein? Ben, parce que déjà à l'époque, Jésus il avait des messages SMS. Assez court. Un jour, par exemple, on avance, un jour, il vient vers quelqu'un et il lui dit « Suis-moi ». Je ne sais pas si vous comptez les caractères là-dedans, mais il y en a que 10, quoi. Hein? C'est pas long comme message. Il y a Matthieu qui s'appelle Lévi, qui est assis à une table, en train de faire son travail, en fait, de collecteur de taxes. Et Jésus s'approche et il lui dit juste « Suis-moi ». C'est court quand même. C'est mieux que Twitter, hein. C'est plus court qu'un SMS. C'est combien un SMS? 160, non? Ouais, et Twitter, 140? 10, là. C'est vraiment court, hein. Et même, en fait, quand Jésus donne sa vie sur la croix, la dernière parole qu'il prononce, elle est très courte. Il dit « tétélestai ». Ça veut dire « tout est accompli ». Et « tétélestai », ce n'est pas un grand mot, quoi. C'est pas beaucoup de... C'est un seul mot, en fait. Donc je dis oui, je crois que si Jésus était là aujourd'hui, il utiliserait les SMS. Mais mon message, ce n'est pas pour vous parler des SMS. En fait, il y a une signification derrière ce titre, Jésus, mon SMS. Et le premier S, et j'aimerais qu'en fait, quand vous allez envoyer vos SMS, tout le reste de votre vie peut-être, eh bien vous vous souveniez, et c'est pour vous aider à vous souvenir en fait de ce message. Jésus, mon SMS. Jésus, le premier S pour sauveur. Jésus, mon sauveur. On peut lire maintenant ce verset dans la parole de Dieu que vous connaissez. Et puis, il est vraiment de circonstance. Là, Noël, c'est les cadeaux. Je ne sais pas ce que vous avez commandé, vous, comme cadeau. Je ne sais pas ce que mes enfants m'ont acheté comme cadeau. Ils ont pas. J'envoie un message, vous savez. C'est pratique d'être pasteur, c'est qu'on peut envoyer des messages. Mais eux, je sais ce qu'ils veulent aussi comme cadeau. Et le plus beau cadeau, c'est Dieu qui nous l'a fait. Amen. Le plus beau cadeau, c'est Jésus. Je vous annonce, ça c'est les anges, il faut imaginer un petit peu, c'était quand même aussi spécial. Hein. Les bergers sont là, ils sont en train de garder les troupeaux dans les champs, et nous on a eu le privilège d'aller à cet endroit-là, de visiter cet endroit, les champs à Bethléem, et ils sont là, ils sont en train de garder, et puis tout d'un coup il y a le ciel qui s'ouvre, il y a la gloire de Dieu qui apparaît. C'est mieux qu'un film, hein, c'est mieux que de la 3D, hein, ok? C'est extraordinaire. Et puis là, il y a les anges de Dieu qui disent aux bergers, voilà, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur, Jésus mon sauveur. Les anges n'annoncent pas seulement un sauveur, mais ils annoncent aussi qu'il est le Christ et qu'il est le Seigneur. Pour être sauvé, il faut reconnaître Jésus comme son sauveur. Il ne suffit pas que Jésus soit le sauveur du monde, il faut que Jésus soit notre sauveur personnel. Il faut que Jésus soit ton sauveur. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, il faut que Jésus soit ton sauveur. Non, mais... Allez, dis-le à quelqu'un. Quand Jésus est venu, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Sauveur du monde, Jésus le seul nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Marie, sa maman, elle est prête d'accoucher. Ils arrivent à l'hôtel, dans un hôtel, et ils demandent une chambre. Et là, l'hôtelier, le patron de l'hôtel, dit « Désolé, il n'y a pas de place pour vous. » Et donc Jésus va devoir naître dans cet endroit où il y a des animaux, cette crèche, cette mangeoire dont on parle encore aujourd'hui. Et puis il y en a chez eux, ils mettent une petite crèche, tout ça, avec des animaux, pour souvenir où Jésus est né. Il n'est pas né au Hilton, quoi. Et moi, je me dis quand même, imaginez un petit peu cet hôtelier, comment il a été quand même stupide. Aujourd'hui, 2000 ans après, si Jésus était né dans son hôtel, je vous garantis que l'hôtel existerait toujours. Et on payerait cher pour y dormir. Vous ne croyez pas ? Je ne sais pas s'il y en a dans l'église qui font du marketing, mais là, vraiment, c'était une erreur de marketing terrible, quoi. C'était une grosse erreur. Erreur de communication, erreur de... Il a eu faux sur toute la ligne. Le gars, il a le sauveur du monde qui peut naître dans son hôtel. Il aurait dû lui payer la chambre. VIP. On vous donne tout. Petit-déj, repas, boisson à volonté, Marie, Joseph, tout. Je vous prends en charge, je vous paye tout. Vous avez mes chevaux, mes mulets, mes tout ce que vous voulez à disposition. Mes voitures de l'époque, mes carrosses, mais tout. Et le gars, il dit « Désolé, il n'y a pas de place ». Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'on peut faire une erreur incroyable, nous-mêmes. On peut pointer du doigt l'hôtelier et dire quand même, il est stupide ce gars-là. Son hôtel, il a disparu. Aujourd'hui, quand on visite Bethléem, on ne va pas visiter un hôtel. On va visiter des lieux religieux, on va visiter les champs. On dit, bon, c'était peut-être là qu'étaient les bergers, mais l'hôtel... Qui c'est qui se souvient de l'hôtel ? Personne. Hôtel du rendez-vous manqué. Hôtel du gars stupide. Hôtel de l'erreur de ta vie. Ah, franchement, on ne va pas voir cet hôtel parce qu'il a disparu. Jésus vient, il va naître dans sa ville, Marie demande une place, il n'y a pas de place. Mais il aurait dû laisser son propre lit, le gars. Et nous, on peut faire juste la même chose. On peut venir, on peut avoir l'occasion de rencontrer Jésus, on peut venir dans l'église, on peut avoir des parents même chrétiens. Et puis manquer l'occasion de notre vie. Et puis un jour, dire, mais quelle erreur ! Pourquoi j'ai manqué ça ? Pourquoi j'ai manqué Jésus comme sauveur ? Donc c'est tellement important quand Jésus passe dans notre vie, de ne pas le manquer. Et je vous dis, ça aurait été bien pour son hôtel, 2000 ans après on en parlerait toujours, mais pour nous c'est beaucoup plus important parce que c'est une question de vie éternelle. C'est une question éternelle. Est-ce que Jésus est ton sauveur ? Ton sauveur personnel ? Pas juste, ah oui, je sais que Jésus a existé, je sais que Jésus est venu, je sais qu'il est venu là. Mais est-ce qu'il est ton sauveur ? On n'ira pas tous dans le paradis. On ne sera pas tous sauvés. Parce que le salut, c'est un cadeau. Et un cadeau, ça s'accepte ou ça se refuse. Le verset d'après nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc le nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Ok, imaginez que je veuille donner mon iPhone 5S. Qui est-ce qui le veut ? Il y a des candidats. Ah là, il y a une candidate ici. Oh, je ne te le donne pas, je suis désolé, je te le dis tout de suite. Mais si je te le donnais, voilà, je te dis, comment tu t'appelles ? Erika, très bien ton nom, très bien. Si je disais, Erika, je vais te donner cet iPhone. Non, désolé, je ne vais pas te le donner, ok ? Mais si je devais te le donner. Et je dis, tiens, Erika, je te donne, qu'est-ce que tu aurais besoin de faire pour l'avoir ? le prendre. Ah, on applaudit Erika parce qu'elle est vraiment intelligente. Si tu ne le prends pas, est-ce que tu l'as ? Non, voilà. Maintenant, avec Jésus, Jésus, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Je crois que le verset d'après nous dit cela. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais de la même façon qu'un cadeau, ça se reçoit, ça se prend, Jésus se reçoit aussi. C'est tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, qui deviennent enfants de Dieu. Et avant d'aller plus loin dans ce message, je voudrais juste faire un appel, parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici dans ce lieu ce matin qui sent que c'est le moment d'accepter Jésus comme sauveur. De dire « Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi ». Le salut se reçoit par la repentance, c'est-à-dire en disant à Dieu « Pardonne mes péchés, pardonne-moi, je suis un homme pécheur ». Regardez le verset d'après. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être pardonné de nos péchés que Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver, qui a porté nos péchés. C'est le seul nom. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas être juste par nous-mêmes. Tu peux essayer de faire le bien par toi-même, mais jamais tu seras assez juste pour Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver, pour que nos péchés soient pardonnés. On peut fermer nos yeux un instant, et si tu sens que Dieu te parle, si tu sens que c'est comme tu es comme cet homme, et Jésus passe, et tu as l'occasion de le recevoir dans ta vie, comme cet homme avait l'occasion de le recevoir dans son hôtel, bien tu peux choisir de le recevoir maintenant ou de lui dire « il n'y a pas de place pour toi ». Va ailleurs, Jésus, va naître ailleurs. Et c'est un choix personnel. Mais si tu ressens que Dieu t'appelle ce matin, si tu ressens que Dieu t'aime ce matin et que tu veux dire « Jésus, viens dans ma vie », juste lève ta main à ta place maintenant et je voudrais prier avant de continuer ce message. Voilà, si quelqu'un a besoin de Jésus maintenant dans sa vie, lève ta main. Le Seigneur voit ses mains qui se lèvent. Plusieurs répondent à son appel. Gardez votre main en l'air, je voudrais juste prier pour vous. Faites-le juste maintenant, parce que je ne vais pas faire longtemps cet appel. Je voudrais continuer le message pour la suite. Voilà, Jésus, merci pour ces amis qui répondent à ton appel. Merci, voilà, tu vois ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, Jésus, qui répondent à ton appel. Merci parce qu'aujourd'hui, ils ne te laissent pas juste passer, mais ils te saisissent et ils disent « Viens, Jésus, sauve-moi ». Pardonne mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Tu vois ces mains qui sont levées maintenant et je te prie de les visiter, de les bénir. Deviens leur sauveur, Jésus. Pardonne leurs péchés et merci parce que tu es mort pour eux sur la croix. Tu as porté leurs péchés et tu les libères en ce jour. Que ce jour soit un jour de salut pour leur vie. Merci, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur ? Wouh ! Je suis toujours émerveillé quand Jésus sauve. Que Dieu vous bénisse, vous qui répondez à son appel maintenant. Il veut être votre sauveur, il veut être votre ami, il veut être proche de vous, il veut que vous le connaissiez. La deuxième lettre du mot SMS, donc la lettre M. Et là, je vais m'adresser un petit peu plus maintenant aux chrétiens, aux jeunes chrétiens aussi. M pour maître. M pour maître. Alors, quand on entend le mot maître, regardez la diapo d'après, le verset. Jésus dit à ses disciples, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Quand on entend le mot maître, on peut avoir différentes interprétations. Et même, en fait, dans le grec, il y a plusieurs mots. Alors, il y a un mot comme pédagogos, ça a donné le pédagogue, l'enseignant. Il y a un autre mot, didaskalos, c'est aussi celui qui enseigne les choses de Dieu. Puis il y a d'autres mots, bien sûr, comme maître dans le sens de despote, le mot despotesse. Bien sûr, Jésus n'est pas ce genre de maître, n'est pas un despote. Il ne s'impose pas, mais Jésus est un enseignant. C'est maître dans le sens de enseignant. Jésus, c'est un enseignant extraordinaire. La Bible nous dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». On peut s'asseoir au pied de Jésus, on peut l'écouter pendant des heures. Il est extraordinaire. Et des fois, en une parole, bam, les cœurs sont changés ou la tempête s'arrête. Jésus est dans la barque, elle est remuée. Les disciples sont en train de penser qu'ils vont, ils vont se noyer. Jésus envoie un SMS à la tempête, silence, tais-toi. Poum, terminé. Il ne fait pas un grand, grand discours, hein. Silence, tais-toi. Je ne sais pas combien ça fait de caractère, mais c'est assez court, quoi. Et hop, ça s'arrête. Efficace, hein. Alors Jésus, il veut être notre maître. Il est dit dans la parole de Dieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc reconnaître Jésus comme maître, ça veut dire observer ce qu'il a prescrit. Jésus, quand on regarde la vie de Jésus, on voit en Jésus un enseignant. Il enseigne les choses de Dieu. Il enseignait comme ayant autorité sur les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Pour une raison simple, lui, il savait de quoi il parlait, puisqu'il avait quitté le royaume, le ciel, pour devenir un simple homme, un enfant, on en a parlé juste avant. Et donc quand il parlait du royaume de Dieu, du ciel, du Père, des anges, du paradis, il parlait de quelque chose qu'il connaissait directement. Donc son enseignement était extraordinaire. Jésus désire que tu sois un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute le maître, qui fait ce que le maître dit et qui fait ce que le maître fait. Ça, c'est un disciple. Être comme Jésus, faire comme Jésus. Ça pourrait être une bonne définition du mot disciple. Jésus nous a laissé ses paroles. Sa parole qui contient ses paroles. Et je voudrais vous expliquer pourquoi c'est tellement important de lire la parole de Dieu. Je sais qu'en tant que chrétien, on n'aime pas trop lire la Bible. Quelqu'un dira amen ? Allez, cinq minutes, on est honnête, ok ? On n'est pas là pour impressionner qui que ce soit, on veut être juste honnête. C'est pas facile. Et c'est pas facile de prier non plus. Quand vous priez, est-ce que vos pensées, elles ont tendance à s'échapper, vous commencez à penser à d'autres choses, ou alors il n'y a qu'à moi que ça arrive ? Quand vous priez, vous vous êtes super concentré sur Dieu et pendant une heure, vos pensées ne sont que sur Dieu. C'est comme ça ? Non. Et pour vous, c'est facile de lire la Bible. Vous pouvez lire 12 chapitres à suivre. En fait, il y a des choses qu'on fait parce qu'elles sont bonnes pour nous. C'est vrai ? J'aime pas courir, mais je sais que si je cours, ça me fait du bien. Bon, pas pendant les 15 premières minutes, ni pendant les 15 dernières, mais pendant 5 minutes au milieu, je sens que ça me fait du bien. Et après, je suis content de l'avoir fait. Pourquoi est-ce qu'on fait du sport ? Ben parce que ça nous fait du bien. Le souci avec la parole de Dieu et avec la prière, c'est qu'on ne se rend pas compte du bien que ça nous fait. Alors moi, je vais vous expliquer le bien que ça va vous faire. Comme ça, ça va vous motiver. Il y a une étude qui a été faite parmi 70 000 chrétiens. Et il est ressorti de cette étude sur les chrétiens que la grande majorité des chrétiens doivent faire face à des tentations. Nous sommes tentés. C'est pour ça que Jésus, quand il enseignait sur la prière, le Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation, enfin, ne nous laisse pas entrer en tentation. C'était dans la prière. Donc nous sommes tous tentés, on va dire, la grande majorité. S'il y a quelqu'un qui n'est pas tenté, c'est qu'il est sourd, aveugle, muet, Et encore, il peut être tenté dans ses pensées. Mais pour vous qui avez, pour les hommes qui avaient des yeux là pour voir, donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, c'est des sources de tentation. Dans cette étude, il a été démontré que les tentations des hommes et des femmes sont un peu différentes. Chez les hommes, c'est plutôt des tentations des sexuelles, des pensées sexuelles. Chez les femmes, j'ose pas vous le dire, parce qu'après vous allez me détester, d'après l'étude, c'est plutôt le commérage. C'est pas vrai, hein ? C'est juste statistique. C'est juste une statistique. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mais c'est parmi 70 000 personnes chrétiennes que l'étude a été faite. Mais bon, c'est peut-être des Américaines, c'est peut-être différent en France. Hein. Ensuite, l'étude, elle est allée un petit peu plus loin et elle a analysé combien de fois un homme est tenté dans ses pensées en moyenne dans une année. Et c'est quelque chose comme 300 jours par an, 6 fois par jour. Ça fait peur, hein ? Ok, donc si t'es tenté, t'es normal. Si t'es pas tenté, tant mieux. Mais t'es l'exception. Donc les hommes sont tentés, les femmes sont tentées, et puis il y a différents types de tentations. Je vous disais ce qui ressortait le plus. Commérage, c'est-à-dire c'est un petit peu parler sur les uns, sur les autres, un petit peu tailler, vous voyez. Je ne suis pas une femme, donc je ne connais pas ce domaine-là. Je peux vous parler du côté des hommes, mais ma femme pourra m'expliquer certainement. Donc on est tenté. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude, c'est qu'il a été étudié aussi quelle est la meilleure façon de faire face à la tentation. Et ce qui est ressorti de cette étude, et puis c'était une étude très sérieuse, le gars qui a fait ça, c'est vraiment, je le connais, il est président d'une grande œuvre chrétienne, et son métier, c'était les statistiques avant d'être chrétien, en fait. Il avait beaucoup de succès dans ce domaine-là. Et ce qui est ressorti, c'est que les gens qui lisent la parole de Dieu, et même qui la lisent plusieurs fois par jour, sont ceux qui résistent le mieux à la tentation. Donc maintenant, vous comprenez l'intérêt. C'est qu'en fait, la parole de Dieu, c'est l'arme, c'est l'outil que Dieu nous a donné pour faire face à la tentation. C'est le contre-poison, c'est le contre-missile de la tentation. Comme, par exemple, quand la Bible dit que le bouclier de la foi, c'est ce qui permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Mais la foi, elle vient d'où ? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient d'où ? De la parole de Dieu. Ah, vous comprenez maintenant. Donc si vous lisez la parole de Dieu, si vous prenez, moi ce que je fais tous les matins, je lis plusieurs versets de la parole de Dieu et j'essaye d'en garder un. Je le garde. Je dis, ah, ce verset-là, il m'a encouragé, il m'a parlé, il m'a touché. Je le garde. Et peut-être dans la journée, je vais avoir une tentation. L'autre jour, je lisais un verset, par exemple, puis c'était... Je lis ça en anglais parce que j'aime bien, mais ça me change un petit peu de notre traduction. On est un peu habitué parfois. Et je lisais que les frères de Joseph ne lui avaient donné aucune parole, ne lui donnaient aucune parole d'encouragement. Aucune parole. Imaginez un gars, il a des frères, jamais une parole d'encouragement. Jamais. Que des trucs négatifs. Ça ne doit pas être facile à vivre. Et donc, c'est un des versets que je lis le matin, ça me parle, je le garde dans mon cœur. Et dans la journée, je reçois un email d'un gars, un email négatif. Et là, au lieu de lui répondre du tac au tac et de lui dire « Tu te prends pour qui ? tu vas voir comment je vais te tailler. Je me dis, ah, Joseph, il recevait aucune parole, mais Dieu a utilisé sa vie, il est devenu premier ministre, alors t'occupe pas de ça. Il y a 7 milliards d'habitants, c'est pas parce qu'il y en a un qui t'écrit pour dire qu'il n'est pas content qu'il faut te focaliser sur lui, il en reste toujours 6 milliards, 999 millions, 999 999 avec qui il t'a pas de problème. Vous voyez, à cause d'un verset de la Bible qui était dans mon cœur. Donc quand Jésus désire être notre maître, c'est pour notre bien. Donc trouvez-vous un moyen. Moi, j'ai une appli dans mon iPhone et tous les matins, j'ai une liste de choses que je veux faire. J'ai mes disciplines, on va dire, personnelles. Parce qu'un disciple sans discipline, ce n'est pas facile. Donc j'ai mes disciplines personnelles et je dis, ah, première discipline, je veux commencer cette journée avec Dieu. La deuxième, je veux lire la Bible. La troisième, je soumets ma vie à Dieu et lui dire qu'il est vraiment le Seigneur de ma vie, etc., etc. Et puis après, j'ai d'autres choses. Penser à dire à ma femme que je l'aime. Et alors, ça paraît bête, ça paraît tellement naturel, mais il y a des choses, elles sont tellement évidentes des fois qu'on oublie de les faire. Alors ça me le rappelle. Voilà. Et j'ai ma liste et puis je regarde. Et à la fin de la journée, je regarde ma liste. Et la dernière chose qu'il y a dans ma liste, c'est de remercier Dieu pour 3 choses qu'il a faites dans cette journée. Et je fais ça et ça m'aide. Mais je vous parlerai de ça une autre fois. Donc Jésus comme maître. Vous comprenez l'importance de la parole de Dieu ? Oui ? Faites quelque chose pour votre bien. Parce que vous allez continuer d'être tenté. Vous allez continuer d'avoir des mauvaises pensées. Et vous avez besoin de quelque chose qui vient de l'antidote au poison. Vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est la meilleure chose qui va vous aider. C'est pour ça que Jésus doit être le maître. Parle, maître. Ton serviteur, écoute. Et puis, enfin, je termine avec ce S. Jésus est le Seigneur. Il est Seigneur. Regardez à nouveau ce verset de la parole de Dieu que je citais au début. Jésus lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Et ça, c'est être un disciple. Jésus nous appelle, il appelle Matthieu, et Matthieu se lève, il laisse tout et il suit Jésus. Il laisse tout. Attention, parce que là, ça monte de niveau, mes frères et sœurs. Là, ça va faire un petit peu plus mal. Jusque-là, j'étais très gentil. Il laissa tout et le suivit. Regardez le verset d'après. Jésus dit à un autre, suis-moi. Donc ça, c'est un autre. Le premier se lève, il laisse tout, il suit Jésus. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ce que je remarque dans ce verset, c'est que Jésus fait le même appel, suis-moi, à une autre personne, mais que la réponse, elle a l'air très bien la réponse. Seigneur, Seigneur, il l'appelle Seigneur, hein? Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ça a l'air vraiment bien. On croirait que son père, il est mort. Mais en fait, essayez d'imaginer 2 minutes que son père, il n'est pas mort. En fait, il est en train de dire à Jésus, Jésus, le jour où mon père mourra, je vais considérer ta demande. En attendant, je vais rester tranquille. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que Jésus, il n'est pas insensible. On a l'impression que le gars, son père, il est mort et que Jésus, il est comme insensible et lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts. » Tu vois, tu n'as même pas le temps de faire l'enterrement de ton père. Personnellement, je suis convaincu que ce n'est pas du tout ça. Je pense que c'est plutôt dans une culture juive, où voilà, je vais attendre que mon père meure et puis ensuite je te suivrai. Et si vous le voyez dans cette perspective, vous le comprenez maintenant plus du tout de la même manière. En fait, il est en train de donner une excuse. Il appelle Jésus Seigneur. Pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis ? Il est en train de dire Seigneur, permets-moi, et regardez ces mots, permets-moi d'abord. Je vais le concentrer. Moi, d'abord. Seigneur, moi, d'abord. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit problème là ? Normalement, si quelqu'un est le Seigneur, il est le roi, c'est Seigneur. Allez, dites-le. Toi d'abord. Mais qu'est-ce que nous on dit souvent à Jésus ? Seigneur, ok, tu vois mon projet là ? Bénis-le. Seigneur, j'ai décidé. Maintenant, bénis ce que j'ai décidé. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai fait ça ? Est-ce qu'on n'est pas comme ça ? Seigneur. Et moi, je l'ai fait aussi. Et je l'ai appris, je l'ai vraiment appris à mes dépens. Peut-être vous avez entendu ce témoignage, si vous m'avez déjà entendu prêcher, mais ça ne fait rien si c'est un petit rappel. Mais quand j'étais jeune converti, je venais de me faire baptiser, je suis parti au service militaire. Et là, pendant le service militaire, mon père m'a appelé, m'a dit « Eric, viens me voir à Toulouse ». Et mes parents avaient divorcé quand j'avais 10 ans, donc j'étais tout content que mon père reprenne contact. Et puis, j'arrive à Toulouse et puis il me dit « Voilà, j'ai une idée. Toulouse, c'est la ville où j'ai grandi, donc j'aime beaucoup. » Et il me dit « Regarde, il m'amène devant une école, une université d'informatique. » Et il me dit « Voilà, je vais te payer cette université à la sortie de ton service militaire. » Après, il m'amène devant un immeuble, super immeuble, où habitait le maire de la ville. Et il me dit « Voilà, je vais te prendre un appartement dans cet immeuble-là, avec musique dans l'ascenseur. » Genre HLM, mais super, super, supérieur, quoi. Super classe. Après, il me dit « Bon, je vais te payer un scooter et le permis de conduire. Et ensuite, je te paye une voiture. Et quand tu sortiras de l'université, tu viendras bosser dans une de mes sociétés et tu pourras devenir le patron de mes sociétés. Vous cherchez l'erreur et vous n'en trouvez pas, quoi. Tout était super, super. Et moi, je venais juste de me faire baptiser. Je ne savais pas que c'est bien, des fois, de demander à Dieu son avis avant de dire oui à quelque chose. Alors mon père me dit « T'en penses quoi ?» Je dis « Ah oui, oui, c'est super, merci. » Alors dès que je termine le service, j'arrive, tout ça. Et moi, je n'ai pas prié Dieu. En fait, dire « Jésus est Seigneur », c'est lui donner le volant de notre vie. Et vous savez que c'est difficile, quand quelqu'un est au volant, d'essayer de tourner le volant à côté. C'est super dangereux. C'est soit tu conduis ta vie et Jésus, il est le passager, soit Jésus conduit ta vie et toi, tu es le passager. Ce n'est pas la même chose. Mais si Jésus est le Seigneur, ça veut dire que même devant les choses qui paraissent super bien, je vais lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Ce n'est pas moi qui dis « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. » Puis ensuite, le jour où, blablabla, eh bien, quand j'aurai décidé. Et Jésus dit « Non, va annoncer le royaume de Dieu. Laisse les morts, va annoncer. » Alors, je n'ai pas demandé à Dieu, puis je suis retourné là à l'armée. Et puis, moi, dans mes prières, c'était « Merci Jésus pour Toulouse, c'est tellement bien. Gloire à Dieu. » Je ne voulais pas demander à Dieu ce qu'il en pensait. Des fois, qu'ils me disent qu'il pensait que ce n'était pas une bonne idée. Alors, au lieu de lui demander, je le louais. « Merci Jésus, vous n'avez jamais fait ça, vous, parce que vous êtes super bien. » Mais moi, je n'étais pas un bon chrétien. Je n'étais pas un bon disciple. Alors, merci Jésus. Hein ? Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait un petit problème que je ne demande pas à Jésus. Qu'est-ce qu'il en pense ? Je n'avais pas été bien beaucoup enseigné encore, mais bon, je savais quand même que ça devait se faire de demander. Alors, je sentais un petit malaise, puis les jours passaient. Et pour finir, je me suis dit, bon, je vais quand même demander à Dieu, qu'est-ce que t'en penses ? Jésus, t'en penses quoi ? Je me rappelle, je bossais aux messes des officiers, j'étais là sur un fauteuil, assis, et puis je dis, ok, bon, je vais prier. Jésus, tu vois cette proposition merveilleuse à Toulouse ? Tu vois le scooter, et le permis, et l'appart, et... Hein, c'est super, merci Jésus, bon, t'en penses quoi ? Et c'était instantané. Dieu a mis une pensée dans mon cœur. Retourne chez ta mère. Oi, oi, oi. Et ma mère, c'était Sergi Pontoise, quoi. RER. C'était vraiment pas la même chose. Oi, oi, oi. Alors moi, j'ai voulu négocier. Je dis, Seigneur, écoute, attends, je vais t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. T'as vu quand même, c'est quand même super. Hein ? J'ai essayé de négocier et Dieu vraiment m'a dit non, retourne chez ta mère. C'est ça mon plan pour ta vie. Tu m'appelles Seigneur, alors vas-y, fais-moi confiance. Et je vais vous dire, c'était vraiment pas facile. Déjà de dire oui à Jésus, oh, c'était dur. Après de dire non à mon père, c'était super dur. Et de retourner chez ma mère, c'était super, super dur. C'était pas... Elle est gentille, quoi, mais c'est pas pareil quand d'un côté, t'as l'école, t'as tout, et puis de l'autre côté, t'as le chômage, quoi. Et je me suis retrouvé au chômage pendant 6 mois. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit oui, là, et maintenant je me retrouve, j'ai plus de boulot, et tu vois tout ce que j'ai laissé. Et en fait, c'était vraiment le début d'une grande bénédiction dans ma vie. Mais nous, vous savez, mes frères et sœurs, surtout ceux qui portent des lunettes, vous savez pourquoi on porte des lunettes? Parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Mais même vous qui ne portez pas de lunettes, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Parce que Dieu, lui, voyait plusieurs choses. Il voyait déjà que mon père, ses sociétés, elles étaient bâties sur des trucs pas très clairs et qu'elles allaient faire faillite et qu'il allait devoir un peu fuir le pays et s'installer dans un autre pays. Et que moi, si je m'étais retrouvé là-dedans, je me serais retrouvé bloqué dans l'ascenseur avec la musique. Mon scooter, il aurait rouillé. Et j'aurais pas pu... Enfin, lui savait ce côté-là, mais il savait aussi l'autre côté. Pas juste le côté, ok, là-bas, ça va pas aller. Mais lui, il savait aussi l'autre côté, comment il allait nous bénir. Puisque mon premier travail, c'était de... Quand j'ai finalement, après ces 6 mois, on m'a embauché, c'était pour bosser pour un homme qui s'appelle Billy Graham, qui est un évangéliste. C'est pas mal comme premier travail. Pour organiser une grande campagne à Bercy, où il y a eu des milliers de gens qui ont accepté Jésus en 86. Ça, c'était quand j'étais jeune. J'étais déjà jeune, quoi, à l'époque, vous voyez. Et c'était un bon boulot. Et puis, parce que j'étais là, dans mon église, on organisait des camps de jeunes, j'ai rencontré Muriel, Mumu, la plus merveilleuse, Proverbe 31, en personne. Et on s'est aimés, mariés, et on a eu des merveilleux enfants qui sont là. Ben oui, si, si, vous êtes merveilleux. Vous voyez, quand Jésus veut être notre Seigneur, ce n'est pas parce qu'il veut nous entraîner dans des choses mauvaises, c'est parce qu'il nous aime. Et je ne regrette pas, je ne regrette pas, je ne serai pas avec vous, je vous garantis, il n'y aurait pas de top chrétien, je vous garantis aussi. Donc c'est vraiment important de laisser Jésus être le Seigneur de notre vie. Et j'aimerais terminer avec cette prière, juste qui dit « Ma prière... Cher Jésus, ma prière est que tu sois le centre de ma vie. Je m'engage avec ton aide à te servir et à t'obéir en tout temps, en tout lieu, quel que soit le prix et quoi que tu demandes. » Et j'aimerais vous inviter à faire cette prière si vous avez envie. De dire, Jésus, tu es mon sauveur, sois mon maître, sois mon Seigneur. Et pour ça, on vous a préparé une petite carte avec cette prière. Il y a le service d'accueil qui va vous les distribuer. Maintenant, merci à notre service d'accueil. Nos sœurs souriantes vont vous donner cette carte avec cette prière. Et si vous voulez faire cette prière, vous allez faire 2 choses qui sont très simples. Eh bien, vous allez faire cette prière avec moi. Et ensuite, eh bien, vous pourrez signer cette carte et la garder. Et ensuite, vous pourrez envoyer un SMS pour dire « j'ai fait cette prière ». Vous pouvez m'envoyer un SMS. Et moi, je vous enverrai un petit message, un petit texto pour vous encourager. Je vous répondrai par SMS. Donc là, on a mis le numéro. Un numéro, c'est le numéro de ma femme. Et je la remercie beaucoup. Et je vous enverrai un petit texto pour vous dire j'ai bien reçu votre prière et aussi pour vous donner quelques moyens de tous les jours de méditer la parole de Dieu. Je vous enverrai l'adresse pour vous inscrire à Passe le mot, SMS dont je vous parlais. Je ne vous inscrirai pas, mais je vous enverrai le lien pour, si vous avez envie de vous inscrire à la pensée du jour, à d'autres choses comme ça, pour vous permettre d'avoir la parole de Dieu chaque jour, dans votre téléphone ou alors dans votre ordinateur. D'accord ? Et vous pouvez faire ça pendant ce culte. Pour la première fois, vous pouvez envoyer des SMS pendant un culte, personne ne va vous trouver bizarre. Vous pouvez le faire juste après le culte aussi. Mais faites-le aujourd'hui, n'attendez pas d'aller ensevelir votre père pour... D'accord ? Vous avez compris, c'est « Toi, suis-moi », il se leva et le suivit. Et je vous encourage de vraiment le faire aujourd'hui. La raison pour laquelle je fais ça, c'est peut-être le premier appel avec réponse par SMS en France, peut-être au monde, je ne sais pas. Mais la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je crois que dans l'avenir, dans des camps de jeunes, par exemple, on pourra dire aux jeunes « Répondez par SMS à l'appel ». Ça nous permet de faire le suivi auprès de ces jeunes-là. En fait, vous servez un petit peu de cobaye. Et je vous remercie. Donc je veux voir en même temps, ça me permet d'évaluer et de voir si on peut le faire à l'avenir avec les rassemblements de jeunesse. J'invite l'équipe de louange de revenir. Et alors que nous allons faire cette prière ensemble, ils peuvent commencer à jouer, à chanter. Jésus, je veux que tu sois... Vous avez cette petite carte ? Vous l'avez eue ? Et si c'est là votre désir, si vous voulez que Jésus soit votre Seigneur, je voudrais vous inviter de vous lever et puis nous allons dire cette prière ensemble. Si vous voulez que Jésus soit votre Seigneur, le Seigneur de votre vie, et faire cette prière avec moi, juste levez-vous et puis vous pouvez juste répéter après moi ces mots. Merci de répondre à son appel, c'est pour lui. Il n'y a pas de meilleur sauveur et maître et seigneur que Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. On le chante des fois, j'ai fouillé, j'ai cherché, il n'y a personne comme Jésus. Vous pouvez répéter après moi, cher Jésus, ma prière est que tu sois le centre de ma vie. Je m'engage avec ton aide à te servir et à t'obéir. En tout temps, en tout lieu, quel que soit le prix et quoi que tu demandes. Amen. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Si vous avez fait cette prière, signez votre carte, gardez-la. Vous pouvez la lire chaque jour. Moi, je lis souvent et je refais cette prière. Jésus, aujourd'hui, sois le centre. Tout lieu, tout temps. Et puis envoyez le mot oui au numéro qui est là sur l'écran ou qui est sur votre carte. Et puis je vous enverrai un petit mot. Je voudrais prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour ces moments. Merci parce que tu es là. Et ta parole nous encourage, elle nous challenge de te suivre, de te servir, quel que soit le prix, quel que soit le lieu, parce que tu veux notre bien, Jésus. Merci pour mes bien-aimés frères et sœurs qui aujourd'hui répondent à ton appel, qui veulent que tu sois leur maître et leur Seigneur. Merci Jésus pour ces moments, parce que ces moments vont changer notre vie, je le crois, et nous permettre d'être plus à ton écoute, de recevoir tes paroles et de faire ta volonté. Jésus, bénis-les, remplis-les du Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as donné le Saint-Esprit et ta parole. Merci Jésus. Parce que tu vas les encourager, les bénir. Et je crois qu'ils vont te voir à l'œuvre dans leur vie d'une façon spéciale dans les jours qui viennent. Merci Jésus. Amen. Et je vous souhaite vraiment un bon Noël, de joyeuses fêtes. Que le Seigneur vraiment continue de vous utiliser, de vous encourager. On peut rester debout, hein. On va célébrer avec un dernier chant.
Quand Jésus est notre Seigneur, ça veut dire aussi qu'on l'apprend à le bénir en tout temps, à dire du bien de lui en tout temps. Qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans le désert, on doit apprendre à le bénir. C'est un peu ça aussi, faire confiance en notre Jésus. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sous moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon coup d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.